Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et cette heure commence comme chaque jour par le survol de l'info éco avec Claire Checaglini.
BFM Business, l'info éco.
À suivre, bien évidemment, tout de suite. Parfois, il y a des petits soucis de micro. On règle ça et on retrouve Claire Checaglini. Claire.
Comment améliorer la gestion de l'eau alors que la ressource se raréfie? C'est tout l'enjeu des 50 mesures du plan dévoilé à la mi-journée par Emmanuel Macron. Le président se rend dans les Hautes-Alpes, au lac de Serre-Ponçon. C'est le plus grand réservoir d'eau douce en Europe de l'Ouest. Objectif de ce plan à court terme, passer l'été alors que l'hiver a été marqué par la sécheresse. Objectif de long terme, donner un cap à l'horizon 2030. Aujourd'hui, seul 1% de l'eau est réutilisée en France contre 14% en Espagne ou 8% en Italie. Eurodéputés et États membres sont tombés d'accord à l'aube. Le mix énergétique européen devra être composé à 42,5% de renouvelables. Pour Emmanuel Wargon, c'est un compromis entre ceux qui voulaient que l'objectif passe à 45% et ceux qui étaient favorables à un maintien à 40%. La présidente de la commission de régulation de l'énergie était ce matin l'invitée de Good Morning Business. Concernant le nucléaire, là aussi, parlementaires et représentants des 27 ont choisi un juste milieu. Pas de reconnaissance pleine et entière de l'atome comme énergie verte, mais la possibilité pour Paris d'utiliser le nucléaire pour produire de l'hydrogène. Justement, pour y parvenir, la France mise sur les SMR. Ce matin, EDF annonce la création d'une filiale Nuward dédiée à ces réacteurs de faible puissance. L'électricien souhaite que cette nouvelle branche devienne leader européen en la matière. D'ici 2024, 150 salariés devraient travailler chez Nuward. Les ménages modestes qui se chauffent au fioul et au bois auront un mois supplémentaire pour toucher une aide entre 50 et 200 euros. 4 200 000 foyers sont éligibles à ce chèque. Ils peuvent finalement le réclamer jusqu'au 30 avril, annonce ce matin d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Le verdict est tombé peu après 10 heures ce matin pour les 140 salariés de Buitoni à Caudry dans le Nord. Leur usine va fermer définitivement. Nestlé, propriétaire de la marque, invoque une chute des ventes après le scandale sanitaire des pizzas surgelées. Les contaminations à la bactérie E. coli provenaient précisément du site nordiste.
Merci beaucoup Claire. Claire Checaglini, chaque heure, pour prendre le pouls de cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on se connecte au marché financier.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Antoine Larigauderie, que l'on retrouve chez Euronext. Bonjour Antoine. Toujours.
Bonjour Cédric.
La forme, on n'est pas loin des plus hauts du jour.
Ben oui, on accélère, effectivement, avec une hausse d'1,09% pour le CAC 40, 7265 points. Les volumes d'échange restent relativement calmes. On est du côté des 600 millions d'euros d'actions négociées et un marché qui est toujours stimulé par deux facteurs. Alors déjà, des facteurs techniques, on voit que le Nasdaq reprend 20% depuis ses derniers plus bas de décembre. Donc, on est à nouveau en bull market sur les valeurs de croissance américaines. Ça, c'est un bon signal technique. Puis l'autre signal, c'est celui de l'inflation qui semble vouloir ralentir un peu sérieusement du côté européen, données intéressantes du côté de l'Espagne, du côté de l'Allemagne. Tout cela est décortiqué par les marchés. Les taux réagissent assez peu parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de volatilité ces derniers jours, mais enfin, on a un a priori quand même un peu plus positif sur la conjoncture économique à court terme. Du côté des indices, aussi bien que des indicateurs de volatilité et tout un tas d'autres chiffres importants scrutés par les marchés, on semble avoir laissé de côté, laissé derrière nous la crise bancaire. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. Le CAC 40 reprend donc donc ça marche à la hausse. On a un Eurostock 50 qui gagne 1,12%. Et puis du côté du DAX à Francfort, on avance d'1%. Les valeurs les plus actives du jour à noter en tête des progressions du CAC 40, toujours Unibail Rodamco Westfield, plus 3,9% à 49,04€. Reprise encore très forte du secteur bancaire aujourd'hui. Société Générale, plus 3,6, on est à 20,87. BNP Paribas, plus 2,96, 54,95. Crédit Agricole, plus 1,93 à 10,45€. Et puis comme on a les valeurs de croissance qui sont en hausse du côté du Nasdaq, on a l'ensemble des valeurs de croissance qui sont aussi en progression pour le CAC 40. Et ça signifie aussi une sérieuse performance du secteur du luxe. LVMH, plus 1,09, 831€. On a signé un nouveau plus haut historique, comme le disait Jean-Louis Cussac tout à l'heure. Les valeurs à la baisse, des valeurs défensives. Danone, moins 0,7%, on est à 56,66. Sanofi, moins 0,12 à 188. Thales, moins 0,11 à 137,20. Du côté des taux, on le disait, alors très très léger point de tension à 2,81 pour la dette française 10 ans et 2,31 pour la dette allemande. Mais enfin, rien de bien probant. Le CAC 40 lui avance de 1,11% à 7266 points. Et l'euro, toujours très bien orienté face au dollar, on est à 1,0874.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. Et tout de suite, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Pour RF Research et Frédéric Rosier pour Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Merci à tous les deux d'être là. Bon, on va essayer de serrer les problèmes bancaires, financiers, etc. Mais la correction est terminée quand on regarde le marché, Véronique.
Jusqu'à la fin du trimestre, au moins. Plus sérieusement, on le sait, ce problème bancaire a des chances d'être récurrent. En tout cas, beaucoup d'éléments incitent à la prudence. A contrario, la mobilisation a été extrêmement rapide, globale, totale. Donc, les moyens sont là pour en limiter l'impact. Deuxièmement, on a des chiffres d'inflation qui semblent aller dans le bon sens. Bien évidemment, les effets de base énergétiques sont extrêmement puissant derrière ces bonnes nouvelles. Il faudra attendre de voir un petit peu ce qui se passe dans le détail, les sous-jacents, les prix des services, etc. Probablement qu'on a encore un peu d'inquiétude, on aura encore de bonnes raisons d'être un peu inquiet à ce niveau-là. Mais finalement, et par ailleurs, les indicateurs économiques sont... dans la fourchette haute du médiocre, ça reste très mou,
encourageant.
C'est pas très engageant, mais ça va plutôt dans le bon sens, une reprise du secteur automobile. Alors, il faut pas trop regarder dans le détail, c'est plutôt en Allemagne que ça se passe, mais on sait que l'Allemagne est leader. On a également dans les secteurs qui avaient été les plus impactés et durement impactés, je pense à la chimie par exemple, par l'envolée des prix des matières premières, un début de reprise. Alors la Chine n'est pas là, les locomotives attendues ne sont pas là, mais on a pas mal d'éléments effectivement, et toujours beaucoup de liquidités pour soutenir ce marché. Donc oui, on peut être un brin moins inquiet qu'il y a deux semaines par exemple, ou ces jours-ci.
Frédéric, qu'est-ce qu'on se dit chez Mirabeau, qu'effectivement la correction est terminée?
Possible. Possible. Alors après, l'horizon, on réagit vraiment quasiment semaine après semaine, mois après mois, puisque les scénarios économiques ont quasiment changé 3 ou 4 fois depuis le début de l'année, et les thématiques d'investissement ont changé en 3 à 4 mois. Force est de constater qu'on a eu quand même, on a eu tout ce qu'il fallait de stress possible, imaginable depuis 2 ans et demi. Il nous manquait plus que le problème financier, problème bancaire. et finalement, on se retrouve où aujourd'hui? On se retrouve à 3-4% sur le CAC par rapport au plus haut historique. On a des marchés qui sont même résilient, la baisse des taux longs favorise énormément les valeurs de croissance qui avaient largement, en tout cas pour les valeurs technologiques américaines, largement sous-performé l'année dernière. Donc on est en train de finalement de trouver toujours des relais de croissance sur les indices pour aller quelque part toujours un peu plus haut.
Bon, donc la finance s'en sort indemne.
Bah, il semblerait. Faut être pragmatique hein, ouais, dans le métier. La bourse a toujours raison quelque part jusqu'au moment où elle a tort. Mais en tout cas, visiblement, elle est plutôt dans un scénario, on va dire, d'un atterrissage économique avec des taux qui vont dans le bon sens, une inflation qui ralentit. Et on regarde valeur par valeur. Et pourquoi les valeurs technologiques et notamment les GAFA sont en train de rebondir? Parce que abondance de cash, pour le coup, ne nuit pas aujourd'hui. Et quand vous avez des sociétés comme les GAFA, je pense à Apple, Microsoft, qui bon an mal an sont capables en operating cash flow de générer quasiment 100 milliards par an avec des taux à 5% sur les taux courts, c'est pas une mauvaise nouvelle financière, cette histoire. Donc, oui, on retrouve du relais de croissance, honnêtement, sur les marchés grâce à ces valeurs qui avaient sous-performé.
Alors, on va quand même passer au crible un petit peu les deux grandes questions qui traînent. C'est est-ce qu'il y a un vrai problème bancaire ou est-ce qu'on a eu une tension et que c'est derrière nous? Est-ce qu'on a circonscrit le problème, Véronique?
À brève échéance, oui. Après la question, je pense qu'il faut la remettre dans la perspective. On a un monde d'hyperliquidité qui a conduit à des valorisations extrêmes à bien des niveaux sur la plupart des classes d'actifs en réalité. Et c'est pas surprenant effectivement qu'à partir du moment où le contexte de taux d'intérêt qui est à l'origine, bas niveau des taux d'intérêt, les injections de liquidités de ces dernières années qui est à l'origine de cette situation-là, quand ce contexte-là se modifie comme il s'est modifié ces derniers trimestres, c'est pas surprenant que ça craque. Alors, ça craque du côté des banques de manière un peu surprenante, hein, notamment quand on regarde la situation des banques européennes. Hein. Mais je pense que le problème de fond, il n'est pas spécifiquement bancaire. Il est lié effectivement à cette situation d'hyperliquidité qui a créé effectivement des bulles plus ou moins importantes qui sont amenées à corriger à un moment donné. Prévoir à partir de quel moment tel secteur ou tel autre risque de craquer, c'est extrêmement difficile. Maintenant, considérer qu'on a passé le plus dur de la crise bancaire et que tout va bien, qu'on est dans un monde sans risque, c'est une erreur, me semble-t-il. Alors, on est très regardant, notamment tout ce qui se passe au niveau de ce qui s'est passé au niveau du crédit et qui pose encore se passer précisément. Le marché du crédit corporate a été en pleine ébullition. Je pense qu'il y a des points de fragilité sur ces marchés, mais c'est pas le seul. On en a évoqué beaucoup. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on n'a pas évoqué ces derniers jours. Hein. Donc je pense que la conscience est là et on doit rester très vigilant parce qu'il y a, je pense plutôt à un environnement, moi, je reviens toujours à 2007, hein, 2007, avant 2008. On a eu quand même beaucoup d'épisodes récurrents, successifs, qui venaient effectivement de cette situation de surendettement généralisé. Aujourd'hui, le surendettement généralisé, il est au moins 50% supérieur à ce qu'on avait à l'époque. Et il serait quand même très surprenant qu'il n'y ait pas des craquements alors qu'on
Pourtant, on dit aussi que les entreprises européennes, par exemple, sont très largement désendettées, que les ménages aux États-Unis sont moins endettés qu'au moment des subprimes. Enfin,
Les entreprises européennes, particulièrement françaises, ne sont pas très désendettées. Elles sont moins endettées qu'au pic d'il y a 18 mois, mais elles restent considérablement endettées. Et alors, qu'est-ce qui nous sauve? C'est que les taux d'intérêt réels en réalité sont extrêmement faibles et que les banques centrales ont beau nous dire qu'elles ont fait ce qu'elles devaient ou quasiment, on est très très loin du compte par rapport aux standards du passé. Il fallait dans les standards du passé avoir des taux d'intérêt réels au moins au-dessus de 1% pour s'assurer de mettre à l'écart une problématique inflationniste. Aujourd'hui, on a toujours des taux réels ex post, hein, je parle bien des taux d'intérêt moins de l'inflation, qui sont extrêmement négatifs. Donc ça sert, et c'est probablement nécessaire d'ailleurs, pour maintenir un équilibre financier d'ensemble, mais la situation reste effectivement problématique. Le grand risque, c'est quoi? On réinjecte des liquidités, en tout cas du côté américain, la problématique inflationniste risque de revenir dans quelques mois, et à ce moment-là, il faudra remonter les taux, et à nouveau, probablement, avoir des épisodes ou bancaire ou financier désagréable.
Est-ce qu'il y a un problème bancaire ou est-ce qu'il est réglé?
C'est super compliqué parce qu'une banque, le métier d'une banque, c'est de la confiance.
Ouais, c'est
apporter de la confiance.
Et quand on a un peu égratigné la confiance,
c'est très compliqué.
C'est pas facile de la restaurer.
Parce que lorsqu'on regarde, on analyse toutes les banques européennes, on n'a pas de problème de fonds propres, elles sont surcapitalisées. En termes de rentabilité, elles reviennent sur des niveaux de rentabilité incroyables. Même Deutsche Bank, en dégageant 5 milliards, ce n'est pas un problème de rentabilité, c'est un problème de confiance. Donc ça, c'est très dur à rétablir. C'est vraiment très dur à rétablir parce que lorsque vous érodez la confiance, il faut généralement, sur un secteur comme celui-ci, ça met à peu près 6-9 mois, voire un petit peu au-delà. Donc, c'est un peu la complexité de ce secteur et surtout le crédit qui se resserre aux États-Unis, c'est vrai. En Europe, il y a l'immobilier aussi. On a eu encore une note cette semaine sur l'immobilier coté, notamment,
qui annonce plus ou moins une forme de quasi-catastrophe sur le secteur. Les banques américaines ont fait énormément de provisions sur un risque économique, risque de croissance. Je pense que les banques européennes vont être amenées peut-être à faire des ajustements dans ce sens. Mais je répète, hein, hormis un effet bank run qui affaisse quelque part la solidité des banques, on a des banques solides, on a des ratios de liquidité qui sont largement suffisants. Ce n'est pas un problème. Voilà. Et notamment si on ne rentre pas dans une récession. Maintenant, la confiance. On a vu ce que ça fait. Ça fait que les actifs aujourd'hui qui sont sortis du système bancaire ont énormément profité de la situation. Le rebond du Bitcoin, le rebond de l'or. Voilà, c'est cette défiance du système aujourd'hui qui est peut-être le plus gros danger. À partir du moment où vous restaurez cette confiance, il n'y a pas de problème sur le secteur bancaire, hormis effectivement le resserrement du crédit. On voit par exemple aujourd'hui dans l'immobilier, j'entends assez fréquemment des refus de crédit aux alentours de 70 à 80%. Oui. Donc c'est sûr que la dynamique va être compliquée.
Ça veut dire que il y a des risques financiers qui sont induits par cette politique très dure des banques centrales. Enfin, est-ce qu'elles ont eu raison, par exemple, puisque le hasard du calendrier a fait qu'elles ont toutes les deux fait leur réunion au cœur de la crise, on va dire. Est-ce qu'elles ont eu raison de remonter 50 points de base pour la BCE, 25 pour la Fed, ou est-ce qu'elles ont pris des risques inconsidérés? Est-ce que, comme elles semblent le dire, ce problème bancaire, il joue aussi un peu le rôle d'un resserrement monétaire supplémentaire et que donc, on approche du taux terminal? Enfin voilà, comment est-ce que vous voyez les choses une fois qu'on sort de la simple question bancaire, Véronique?
Alors, je dirais la première vue ou la première analyse, c'est la complexité de la situation dans laquelle elles se sont retrouvées. Effectivement, deux semaines avant, ou quelques jours d'ailleurs, l'affaire SVB, rappelez-vous Jérôme Powell, falloir, et qui avait préparé quand même les esprits, un nouveau round de hausse des taux. Et puis arrive SVB et on fait ce qu'il faut. Est-ce qu'il fallait qu'il s'abstienne sur ces taux d'intérêt? C'était mon opinion. Pourquoi? Parce qu'effectivement, remonter.
Non, mais je mets les pieds dans le plat directement et comme ça vous allez intégrer ça dans votre démonstration. Si et ou Christine Lagarde et ou Jerome Powell avaient dit on bouge pas nos taux, vous savez d'entrée de jeu ce que serait produit. Ils ont des infos qu'on n'a pas, ils nous cachent des choses, eux connaissent la vraie situation, c'est donc dramatique et ça aurait été un épisode encore plus saignant que celui qu'on a connu, non?
Possiblement. Après, remonter ces taux directeurs alors que les taux à terme s'écrasent.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas de bonne solution, quoi.
Non, il n'y avait pas de bonne solution. On a choisi la solution communication, qui est essentiel parce que la communication c'est peut-être la confiance voilà, maintenant je pense qu'on il va falloir être très prudent. Effectivement, cette hausse des taux elle fait pas mal parce que finalement elle est compensée par la baisse des rendements à plus long terme, à moyen terme, c'est ce qui importe pour l'économie, mais effectivement on risque, ce que je disais au début, de renouer très rapidement avec des problématiques de banque centrale qui vont se retrouver au pied du mur. On est obligé de remonter à nouveau, peut-être plus rapidement, peut-être agressivement, on ne sait pas trop en réalité, ou qui risque au contraire, parce que l'inflation entre mars-avril va être clairement orientée à la baisse au niveau mondial, c'est incontestable, de relâcher ou de donner l'impression de relâcher trop vite et d'avoir à se raviser derrière. Donc l'environnement est extrêmement complexe, très périlleux, en particulier pour les banquiers centraux qu'on aime bien quand même critiquer dans tous les sens. Et je pense que personne n'a la solution. Mais effectivement, particulièrement les 50 points de base de la BCE paraissaient quand même extrêmement provocateurs dans l'environnement dans lequel on était à ce moment-là.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais on n'aimerait pas être à la place de Christine Lagarde aujourd'hui.
Je vais être hyper provocateur. Je me dis, finalement, SVB, Crédit Suisse et compagnie, est-ce que c'est pas, à partir du moment où le risque est maîtrisé, finalement, la meilleure nouvelle pour des banques centrales? Parce que le jeu de remonter les taux d'intérêt, c'est bien simple, hein, c'est d'enrayer bien sûr l'inflation, mais c'est surtout de geler la frénésie de crédit pour calmer un peu la surchauffe de l'économie. Or, qu'est-ce qui se passe depuis SVB et Crédit Suisse? C'est que finalement, ça fait le job d'une remontée de taux. Oui. Parce que les banques aujourd'hui se disent, si je prête, je vais dégrader mon risque, surtout en période d'incertitude économique. Et donc, finalement, je pense que cette, à partir du moment où, bien sûr, ce risque est contenu, c'est peut-être l'équivalent de 25 points ou 50 points de base d'un coup qui sont arrivés avec ce gel quelque part du crédit.
Sans le dire, quoi. Enfin.
Sans le dire. Et donc, voilà, ça va peut-être changer aussi des conditions. C'est aussi d'ailleurs des anticipations, vous l'avez vu, hein, sur la baisse des taux qui ont tendance à avancer. Est-ce que c'est fin 2023, début 2024? Mais c'est aussi dû à ce resserrement du crédit qui a provoqué quelque part le job que devait faire Powell pour enrayer cette surchauffe de l'économie. Donc c'est une mauvaise nouvelle qui peut-être in fine n'en est pas une si mauvaise. Et je répète, à partir du moment où c'est contenu.
Mais allons un peu plus loin sur l'aspect micro à ce moment-là, parce que je ne vais pas vous demander de nous analyser les comptes des entreprises, mais prenons-le en grand agrégat. Aujourd'hui, les marchés ont aussi pricé les bons résultats, les marges qui persistaient, les perspectives qu'on n'arrivait pas à rogner malgré les incertitudes sur la croissance, sur l'inflation, sur une récession ou pas. Et tout le monde disait, bah oui, mais regardez, les entreprises se portent bien, donc tout va bien. Est-ce que s'il y a un problème de crédit, ça doit pas nous interroger un peu sur la valorisation des futurs des boîtes. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas un impact de tout ça qui va devoir être aussi un peu intégré en termes boursiers, financiers?
Oui, bien évidemment, vous avez complètement raison. Alors derrière la valorisation, il y a quand même deux éléments majeurs. Effectivement, n'oublions pas les aides publiques ou l'action publique qui est considérable à tous les niveaux, qui est nécessaire. Nécessaire, notamment quand on regarde, on a en tête votre journal précédent, on voit bien que la problématique environnementale, climatique, a besoin effectivement de cette impulsion. Mais, donc cet élément-là, c'est déjà un premier point. Est-ce que ça va durer? Est-ce que les États vont pouvoir continuer à tenir à bout de bras les entreprises? A priori, ça va devenir un peu plus compliqué, en tout cas plus sélectif. Et puis les besoins de financement qui sont considérables, effectivement, en particulier par rapport à ces problématiques environnementales, etc., énergétiques. Et là, ce sont des besoins de financement où il va falloir prendre du risque. Et c'est pour ça que SVB, enfin, c'est pas pour ça, mais c'est un des aspects de la faillite de SVB qui a marqué, c'est que c'était un établissement spécialisé, effectivement, dans le financement des start-up. Or, on sait que le monde actuel et celui de demain et d'après-demain, sans doute, va être fait grâce au succès, en tout cas, on l'espère, de ces start-up qui pourront apporter des solutions aux problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc il y a là un par ailleurs dans un contexte où les valeurs technologiques n'étaient pas non plus en très bonne forme et ça risquait effectivement d'aggraver les problématiques de financement à ce niveau-là. Donc oui, je suis complètement d'accord. La crise bancaire, même en éclair comme peut-être
comme elle a peut-être eu lieu,
voilà. Ouais, eh bien joue et l'équivalent des hausses de taux d'intérêt est peut-être plus efficace d'ailleurs, parce que là, on restreint directement le crédit, alors qu'effectivement,
les banques centrales
avaient du mal à parvenir à ce point. Et c'était justement l'inquiétude qu'on avait ces derniers mois, en voyant la croissance du crédit qui continuait de manière extrêmement robuste. Là, ça a commencé à se retourner, et je pense que cette crise bancaire peut accélérer probablement les choses.
Du coup, est-ce que ça remet en question une allocation, un choix patrimonial, d'exposition sur les marchés, sur telle typologie ou pas de valeur?
Tout à fait. Pour revenir sur l'histoire de l'endettement, bon, les dettes nettes sur EBITDA sur le CAC 40, ils ont quand même sérieusement baissé et les charges financières ont quand même été énormément réduites. Donc les entreprises sont plutôt saines aujourd'hui. Alors la baisse des taux, le ralentissement économique, comme je dis précédemment, on va regarder le bilan bien sûr des sociétés, on va regarder leur capacité de déploiement, leur réserve de cash. Il y a abondance de cash encore, c'est bon nombre d'entreprises, notamment sur ces fameuses GAFA. Ça va être problématique certainement sur les CAPEX à venir. Donc le raisonnement qu'on va avoir, c'est dans un monde qui ralentit, resserrement peut-être du crédit, les valeurs de croissance mécaniquement, celles qui ont de la réserve de potentiel de croissance, vont être largement favorisé par ce contexte-là. Donc, dans une allocation, il est clair aujourd'hui qu'il faut peut-être redistribuer les cartes, aller, alors qu'on avait plus.
Avec comme clé de répartition la dette.
La dette, ça va être important. Il y a un mur de dette. Il faut juste comprendre qu'on a un mur de dette en 2025. C'est-à-dire que le Covid, 2020, a provoqué énormément de besoins de refinancement pour les entreprises, notamment les entreprises zombies, qui se sont refinancées. Et en 2025, il va falloir rembourser cette dette. Donc, la capacité des entreprises à pouvoir encore lever des fonds, et on va se poser la question, dès cette année, comment vont-elles faire pour relayer cette dette qui a été générée en 2020? Et là, ça va commencer à se resserrer quand même terriblement. Et donc, les entreprises qui sont capables de faire des acquisitions à bon compte, parce qu'elles ont énormément de cash, je pense qu'il faut les favoriser. Et bien évidemment, ça reste la croissance. Les cash récurrents, telco, voilà, des choses comme ça qui peuvent être favorisées dans ce contexte-là. Mais il y a encore du potentiel, je répète, de croissance sur les marchés parce que ces entreprises aujourd'hui sont saines et elles ont une capacité à faire des acquisitions à bon compte.
Merci beaucoup à tous les deux. Véronique Riche-Flores pour RF Research, donc, et Frédéric Rosier pour Mirabeau, était au cœur de Regards Croisés. Dans un instant, on file sur les marchés, prendre le pouls graphique de la séance. On retrouvera Jean-Louis Cussac. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, pour entamer cette dernière demi-heure, on file comme à l'entame de chaque demi-heure sur les marchés. Et à 11h30, ce sont les considérations techniques qui nous occupent. Jean-Louis Cussac nous attend chez Perceval Finance Conseil. Bon, bah pour le moment, dites-moi, on bon pied, bon oeil, on grimpe, on accélère même un petit peu le mouvement. On est sur les plus hauts du jour. Tout va bien, Jean-Louis ?
Oui, tout va bien. Ben, le marché reste sur ses plus hauts à l'instant T. Il n'y a pas d'indication de faiblesse. On a eu ce qu'on appelle un gap à l'ouverture, c'est-à-dire une ouverture au-dessus du plus haut de la veille, ce qui met toujours une pression sur ceux qui ne sont pas dans le bon sens. Il y a beaucoup de régularité. Il y a eu peu de volume quand même. On est à 700 millions là actuellement. Ce sont des volumes qu'on peut dépasser même à 10h30. Donc il y a pas grand-chose, si vous voulez. Il y a pas vraiment d'idées fortes qui émergent derrière tout ça, si vous voulez. C'est toujours le scénario idéal. Bon, on va maîtriser l'inflation, on va ne pas avoir de récession et tout ira mieux demain, etc. Bon, peut-être. Peut-être, mais ce sont les mêmes interrogations qu'on avait il y a une semaine, 15 jours, 3 semaines, etc. Et le marché, il se balade entre 7004 et il a été allé chercher 6008. Donc là, il est revenu quand même dans la zone haute. Pourquoi pas continuer, bien sûr. Il n'y a pas d'indicateur, en tout cas technique, qui nous permettrait de penser le contraire. La crise bancaire, donc déjà derrière nous. Le niveau d'achat en pur intraday pour la journée, si vous voulez, ça serait un petit repli vers 7250, futur avril. Ça serait pas énorme comme retracement, hein, mais une trentaine de points, c'est un écart que l'on retrouve assez régulièrement et qui ne remet pas en cause l'idée d'acheter avec un maximum de chances de rebondir dans la journée. Évidemment, les remises en cause à plus long terme sont beaucoup plus éloignées. On pourrait imaginer 7050 pour retourner dans une zone avec un petit biais baissier et puis 6950 pour être encore davantage baissier. Mais c'est pas le cas actuellement. On a aussi l'euro-dollar qui se maintient bien, qui a même progressé avec une zone d'achat potentielle vers 1,08-30-20, un niveau qu'on a déjà fait ce matin à 9h. Et si on y retournait, on pourrait toujours acheter. Mais là aussi, la tendance est haussière sur l'euro-dollar.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, qui nous accompagne très régulièrement sur ses considérations techniques. Le marché parisien ce matin en hausse d'1,13%, 7268 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Sur le green qui accueille ce matin Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour.
Directrice générale de Novetic, nouvelle attaque contre les fonds thématiques environnementaux. Cette fois-ci, c'est l'UFC Que Choisir qui porte le fer. Publication la semaine dernière d'une enquête avec des clients mystères, souscripteurs de fonds durables. Et l'organisation les accuse d'éco-blanchiment. Qu'est-ce que c'est ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut mettre en place si on veut qu'il y ait des fonds verts ?
Verts, vraiment verts. Ben, en fait, le vrai problème des fonds durables, c'est la confusion, finalement, sur les promesses qu'on fait aux épargnants. La couleur verte est accompagnée d'un certain nombre de choses en termes d'investissement. Alors, nous, on s'est intéressé, on a publié le 17 mars, une étude centrée sur le nom des fonds. On a passé en revue plus de 1000 fonds pour juste regarder leur nom, évidemment jusqu'où c'était en cohérence avec leur process de gestion.
D'accord, mais en partant de la question du nom.
En parlant juste de la question du nom. Alors, on note déjà une espèce de grand bazar de mots-valises qui peuvent être ESG, impact, éthique, ISR, vert, durable. Et l'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de fonds verts, on parle souvent de tous ces fonds-là, qui donc ne sont pas forcément environnementaux. Et en fait, ce name-dropping, il a une utilité manifeste en termes de collecte, puisqu'on a comparé les collectes des fonds qui portent au moins un de ces vocabulaires avec ceux qui ont le même type de gestion mais qui s'appellent truc-muche, zone euro ou quelque chose comme ça. Eh bien, ceux qui ont le mot ESG, impact, éthique, vert, durable, tout ce qu'on veut, eh bien, ils collectent deux fois plus. Donc, très clairement, il y a un enjeu marketing.
Donc, vous voulez dire que le choix du nom, c'est déjà éventuellement du greenwashing?
Alors, c'est ce qu'on a essayé de vérifier. Très clairement, il y a un sujet, puisque autant le choix du nom fait tilt pour le client final, autant le process de gestion n'est pas forcément aligné. En plus, on a quelque chose qui vient renforcer ça, c'est le marketing, on va dire, à base d'images de nature préservée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de fonds durables, beaucoup de sociétés de gestion qui commercialisent ce type de produits, en général avec un paysage de rêve. Alors, ça peut être le désert, l'océan,
la forêt.
Si, voilà, les forêts, le bateau qui fend la glace dans les icebergs préservés. Donc là, c'est d'une sorte de greenwashing, puisque ça induit le fait que investir dans ce genre de produits, ça veut dire préserver la nature. Or, en fait, ces produits sont investis dans des grandes entreprises cotées qui, dont le premier business n'est certainement pas de laisser vierge des espaces préservés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, la régulation s'est pas du tout intéressée à ça. Elle est aujourd'hui très technique, très orientée sur les process de gestion, alors qu'en fait, le client final est quand même le sujet principal et surtout la promesse qu'on lui fait. Donc, là, est en train de monter chez les régulateurs.
Donc, vous voulez dire, c'est un peu comme les pubs de bagnole, quoi. Il n'y a jamais de bouchon, il n'y a jamais de...
Vous avez remarqué que
on cherche jamais
de
une place.
Seul au volant, dans un espace absolument immense, et on fait ce qu'on veut. Bon, il y a GPS qui vous dit gauche, droite, etc. Mais enfin, sinon, vous faites ce que vous voulez. Alors que la réalité, c'est qu'on achète des voitures pour aller dans des embouteillages, où en plus, les émissions de CO2 et la pollution sont en général maximum. Donc, du coup, on est un peu sur le même type de marketing. Et aujourd'hui, et c'est d'ailleurs vrai pour les bagnoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on interdit ce type de publicité dite mensongère. Et on voit bien que les régulateurs financiers vont vers la même logique entre le nom et le marketing associé pour qu'on ait une promesse qui soit juste par rapport à la gestion durable mise en œuvre.
Donc ça veut dire qu'il va falloir un petit peu faire le ménage, quoi. C'est ça. Quel moyen pour...
Alors oui, parce que par exemple, nous, on a regardé 4 fonds qui s'appellent pareil, c'est-à-dire Climate Action. Climate Action, en bon français, ça veut dire action climatique. Donc, action climatique, ça donne une idée qu'on est à fond sur la réduction des émissions de CO2, des modèles très verts, etc. Or, en fait, sur ces 4 fonds, aucun n'est même classé pareil selon la fameuse réglementation SFDR entre 8 et 9. Aucun n'a le même label. Et il n'y en a qu'un seul qui a ce qu'on appelle le label Greenfin, dont nous sommes auditeurs, qui est vraiment le label le plus vert. Donc on peut imaginer que l'action climatique en termes de marketing, c'est très efficace. Mais il faut absolument, et ça c'est le sens dans lequel va le régulateur, aligner le type de label, de cadre de reporting, etc., avec la promesse du nom. Si on fait de l'action climatique, il faut la faire.
On a déjà évoqué ensemble la réalité des labels, justement. Donc aujourd'hui, si on veut faire un peu le ménage, on devrait pas avoir le droit de mettre une jolie forêt ou une, comme j'ai dans le dos, une petite pousse verte qui sort d'un paquet de pognon.
Voilà, tout à fait.
Si on n'y est pas, ou l'appeler
climat. C'est pas pratique pour faire vos courses.
Climate Action. Ouais.
Faut arroser le porte-monnaie, quoi. Et l'UFC Que Choisir d'ailleurs insistait là-dessus, c'est de dire, bon, en attendant, puisqu'il y a un projet d'écolabel européen pour les produits financiers, c'est pour ça qu'on en parle depuis très longtemps, il y a un côté un peu serpent de mer. Mais en revanche, en attendant, on a en France un label qui s'appelle le label ISR, donc il y a des appels de plus en plus pressants à ce que ce label ISR soit vraiment l'expression de l'UFC Que Choisir, c'est l'étalon de la finance durable européenne. C'est-à-dire, fasse le ménage, et si on veut mettre des forêts, peut-être, mais dans ce cas-là, on a un portefeuille qui n'est pas composé d'entreprises qui attaquent, par leur modèle économique, les forêts en question. Et donc là, on a toute une prochaine étape qui s'ouvre. Le label ISR, il y a une actualité quasi brûlante, puisque ça fait 2 ans quasiment qu'on attend sa refonte. Et a priori, le 18 avril prochain, il sort enfin. en consultation le projet, alors avec cette question brûlante à tous les sens du terme, est-ce qu'il va ou non obliger à ce que les fonds durables sortent les énergies fossiles. La rumeur dit que ce serait seulement les énergies non conventionnelles, ce qui veut dire plutôt le gaz de schiste et l'exploration de l'Arctique, ce qui n'exclut pas forcément les grandes compagnies pétrolières classiques. Donc il y a un vrai enjeu. Et donc, potentiellement...
Donc c'est pas pour tout de suite que l'épargnant pourra
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien une montée en puissance de la prise de conscience, de la responsabilité, surtout quand ce sont les distributeurs qui s'emparent du sujet. Parce qu'en tant que distributeur, l'allégation environnementale qui est une fausse promesse, elle vous revient tout de suite dans la figure. Or l'épargnant, il a besoin d'y voir clair. Et il est possible qu'il attende encore un petit moment avant d'avoir une promesse claire, nette et précise de est-ce qu'on finance ou non la protection des forêts.
Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré, Novetic, qui nous accompagne très régulièrement sur le Green pour évoquer tous ces sujets. À très vite.
À très vite.
Le marché parisien, lui, continue de grimper pour le moment. Plus 1,05, on est à 7262 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et on répond à présent à toutes vos questions avec Jean-François Filiatre, qui est turbulent, turbulent.
Je
Vous êtes
salue
prêt, Jean-François ?
Catherine. Allez, je vous écoute.
Qui veut quoi ? Pour marché gagnant. Déjà, ça s'est dit. Hop, voilà. Jean-Marc a un PEA au plafond, 150 000 euros. Son assurance vie ne lui permet pas d'acheter des titres vifs en direct, nous dit-il. Et il est à la recherche d'un produit qui lui permettrait d'avoir le même régime fiscal que le PEA, donc exonération des dividendes et des plus-values, et d'acheter des titres vifs en direct. Et pour vous compliquer un peu la tâche, Jean-Marc a dit qu'il avait déjà été démarché ou qu'il avait déjà mis le doigt sur l'assurance vie luxembourgeoise qui lui permettrait tout ça, mais le ticket d'entrée lui semble un petit peu élevé pour lui.
Alors, je vais lui répondre tout de suite. S'il veut une assurance vie de droit français qui fait des titres vifs, j'en ai une à partir de 1000 euros. Donc ça, mais surtout, je vais d'abord répondre, pardon Jean-Marc, mais je vais avoir une approche patrimoniale. Alors, il nous dit qu'il a des titres vifs. Donc on va simplifier, j'imagine que ce n'est pas des titres obligataires, donc j'imagine que ce sont des actions. Et qu'il cherche à en avoir plus dans un cadre fiscal avantageux. Donc la première question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que dans son équilibre patrimonial,
vous stigmatisez les Français qui veulent pas manger d'actions. Pour une fois, vous en avez un qui en veut et qui en veut encore plus.
Eh bien, on en arrive à la chose suivante. Je dis la même chose à tous les Français. Et moi, vous savez, ma position sur les actions dans les débats de place, qui consiste à dire est-ce qu'il faut en avoir ou est-ce qu'il faut pas en avoir, je donne toujours la même réponse. Cette question est débile parce que la réponse à cette question, est-ce qu'il faut en avoir pour les gens qui ont rempli leur épargne de précaution, la réponse est oui. La seule question qui compte et la seule question qui vaille, c'est combien. C'est ça la question importante.
Et donc en fait, la question de Jean-Marc, c'est ça quoi.
Donc,
est-ce que vous en avez pas
premier
trop
élément,
ou pas,
voilà. Mon premier élément, c'est de dire est-ce que vous en avez pas trop. Donc maintenant on va si vous voulez bien creuser puisque vous citiez tout à l'heure marché gagnant par rapport à la méthodologie de marché gagnant. Déjà Jean-Marc il nous dit j'ai un PEA au plafond de 150 000. Donc on va juste préciser pour tout le monde et peut-être même pour lui pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La règle concernant le PEA c'est un plafond de versement sur le
et
PEA
pas de valeur.
Ordinaire et pas de valeur. Donc hypothèse.
Il existe des PEA qui
peut-être voilà
affichent des millions.
Donc peut-être dans son hypothèse, je pense qu'il a l'air de connaître quand même un peu, donc j'imagine que c'est pas le cas, mais malgré tout, pour que la réponse concerne tout le monde, j'évoque le cas. Si jamais il a mis 100 000 euros sur son PEA en versement, qu'aujourd'hui son PEA vaut 150 000 euros, en pratique,
il peut encore en remettre.
Il peut mettre encore 50 000 euros sur son PEA. On va maintenant prendre l'hypothèse où son PEA a été à 150 000 euros de versement et où maintenant il a gagné de l'argent et puis ça vaut 200 000 euros. Donc, chez Marché Gagnant, on dit à la question combien ? On dit qu'il faut répondre sur le risque de perte maximum qu'on envisage sur le marché immobilier, puis ça nous donne le risque sur le marché action. Et sur la majorité de la population, on arrive en moyenne, en général, on arrive à environ 25% d'actions. Donc, s'il a un PEA qui aujourd'hui vaut 200 000 euros et qu'il est dans la moyenne de la population, se pose la question de savoir s'il a un patrimoine financier hors immobilier de 200 000 euros. Le quart de, si on considère que le quart du patrimoine financier, ça fait 800 000 euros. Donc, s'il a 500 000 euros et qu'il a 200 000 euros d'actions, j'ai envie de lui dire, Jean-Marc,
il y en a peut-être un peu trop.
Faut peut-être un peu réfléchir. Première remarque. Deuxième remarque, toujours dans la méthodologie, c'est bien qu'ils fassent des titres vifs indirects. Et vous allez encore me dire que je dis des choses et qu'on peut me prendre à défaut parce que ça peut paraître contradictoire. Je défends les titres vifs et on le fait dans le cadre de la méthodologie du portefeuille marché gagnant dont on parle ici régulièrement. Et pourquoi on défend les titres vifs ? Parce que ça coûte moins cher que la gestion collective et qu'on a fait le choix de privilégier un investissement dans les entreprises hexagonales et que ça nous paraît très bien. Mais ça, on l'a fait dans le cadre de la méthodologie de marché gagnant, dans le cadre d'une première étape pédagogique qui consistait à constater que la population française détenait beaucoup de produits dits sans risque, dépôt à terme, livret d'épargne, fonds en euros, plan d'épargne logement, beaucoup d'immobilier, principalement via la résidence principale, et pas d'action. Donc, on dit, quand vous avez beaucoup d'immo, beaucoup de sans risque, il faut apprendre à faire des actions. La meilleure façon de le faire, c'est de commencer, et on y est à cette étape-là, de investir sur des titres nationaux parce qu'on les connaît plus facilement et c'est comme ça qu'on bâtit notre portefeuille. Donc on est à un moment de la vie patrimoniale de l'individu. A priori, si Jean-Marc, il a déjà un contrat d'assurance vie, il a un PEA au plafond de 150 000 euros, il a dépassé ce stade-là. Et donc, les questions que j'ai envie de poser à Jean-Marc
sont un peu plus sophistiquées.
Alors, c'est de dire... Vous avez, première question, est-ce que vous n'avez pas trop d'actions ? Deuxième question, regardons la structure de votre portefeuille en termes d'actions. Et est-ce que, quand on arrive à des niveaux comme ça, eh bien, on peut envisager un certain nombre de choses. Envisager un certain nombre de choses, ça va être quoi ? Ça va être, premièrement, le fait de s'ouvrir sur l'international. Pour une fois qu'on a bâti un socle sur le marché domestique, on peut passer à l'étape suivante, c'est l'ouverture internationale. Donc, s'il ne l'a pas fait... Question suivante, est-ce que c'est plus pertinent pour lui de le faire en titre vif ? Et ma réponse va être relativement cash sur le sujet, c'est que je pense que c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que si on veut un portefeuille diversifié à l'international en titre vif, c'est quand même compliqué à gérer, il faut connaître plein de boîtes. Alors si c'est pour dire, je vais m'acheter du Facebook et du Apple, c'est sympathique. Mais on n'est pas en train de construire un portefeuille. On est en train de prendre des tickets sur des titres qui sont jolis, où on se dit qu'on va gagner plein d'argent, mais on n'est pas dans une logique patrimoniale. Donc, est-ce que il faut aller à l'international ? Si on veut faire de la gestion collective, la réponse, elle aura plutôt tendance à passer par le contrat d'assurance vie et la gestion collective.
Et où là, il pourra certainement mettre des fonds.
Autre hypothèse, quid de sa diversification qu'il a sur des valeurs de taille plus petite ? Nous, on a fait le choix de commencer par les grosses parce qu'elles nous paraissaient les plus accessibles. Mais en revanche, quand on commence à avoir une certaine taille de portefeuille, c'est intéressant d'aller sur des boîtes plus petites. Et donc, on va expliquer à Jean-Marc qu'il y a un autre produit qui existe à côté du PEA. C'est le PEA PME. Donc aujourd'hui, on a la possibilité...
Produit avec avec les mêmes règles, avec tout ça, et du coup qu'il connaît bien aussi.
Alors, les règles sont différentes parce que l'univers est différent, il y a des critères de boîte, il a même peut-être des boîtes qui sont dans son PEA qui relèveraient
du PEA PME.
Donc il y a le PEA PME, on rappelle la règle... en France. Pardon, c'est pas simple. On rappelle la règle...
Je crois que nos auditeurs ont l'habitude.
Le plafond du PEA PME, c'est 225 000 euros de versement. Déduction faite des sommes versées sur un PEA traditionnel, elle-même plafonnée à 150 000 euros. Donc, s'il a son PEA au plafond de 150 000 euros, il a un potentiel de 75 000 euros sur le PEA PME. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça... c'est que, en fait, toute question financière doit toujours avoir un premier chapeau patrimonial pour voir sa situation.
Faut juste pas enfiler des valeurs pour enfiler des valeurs.
Voilà. Et en revanche, il fait une petite recherche sur Internet en mettant contrat d'assurance vie, titre, etc. Il en trouve, il y en a à 100 euros. Après, on va être clair. Détenir un titre dans un contrat d'assurance vie ou détenir un titre sur un compte titre, c'est pas du tout la même chose. Parce que sur le compte titre, vous êtes actionnaire, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de dividende, etc. Sur un contrat d'assurance vie, vous avez une créance sur l'assureur. Pas tout à fait pareil.
Voilà donc, Jean-Marc, votre réponse très complète. On passe à Pierre. On lui propose des fonds obligataires datés, mais il trouve ça cher et il se dit « je pourrais prendre à la place un tracker sur indice obligataire ». Bon, ça vous fait marrer.
Ouais, ça me fait marrer parce que hier j'ai fait un post sur LinkedIn en disant que j'avais parfois le sentiment que la finance c'était la Fashion Week et ça m'y fait penser. Les deux, c'est comme les choux et les carottes. Les deux c'est des légumes, mais c'est pas du tout pareil. Alors, on va essayer de prendre deux secondes pour comprendre les choses. Je vais presque partir d'un truc qui n'a aucun rapport avec le sujet, mais qui ressemble un peu. C'est est-ce que vous voyez une différence, Cédric, entre une obligation et une SICAV obligataire ?
Pas
à première vue.
Ouais, voilà, pas aisément.
Vous m'avez donné la réponse de Choupinette, c'est parfait. Et pourtant, il y a une différence majeure. Je m'explique. Vous achetez une obligation à taux fixe. Aujourd'hui, il n'y a plus de marché pour les particuliers, mais ça existait il y a de cela quelques années, et ça pourrait revenir avec la remontée des taux. Vous achetez une obligation, donc en fait, vous avez un produit, vous avez un prix de souscription, vous avez un prix de remboursement, et vous avez des coupons qui ont vocation à être servis durant toute la période. La caractéristique du marché obligataire, c'est que vous portez un risque sur l'émetteur, d'une part, et celui-là, on va l'oublier, mais vous portez un risque qu'on appelle le risque de taux d'intérêt. C'est-à-dire que la fameuse phrase qu'on explique toujours d'un point de vue pédagogique, c'est que lorsque les taux montent, le prix des obligations baisse et vice-versa. Et en fait, le mouvement à la hausse ou à la baisse, il est dépendant de la durée de vie du titre. Donc quand vous achetez...
Ce qu'on appelle la duration.
La duration.
Donc, non mais que le mot soit dans la tête des gens.
Quand vous achetez une obligation traditionnelle, vous êtes sur un produit dont la duration diminue avec le temps. C'est-à-dire que quand vous avez votre obligation
toute jeune,
on va dire qu'elle est à 10 ans, vous avez une duration de 10 ans, et puis 9 ans plus tard, vous êtes à 1 an du remboursement, vous n'avez plus qu'une duration de 1 an. Donc, la caractéristique d'une obligation, c'est que vous avez une duration décroissante dans le temps. Donc, en fait, votre exposition au risque de taux d'intérêt va être forte au début et ne va cesser de diminuer avec le temps. A contrario, lorsque vous achetez une SICAV obligataire traditionnelle, par exemple qui va être investie sur du moyen terme, on va dire sur du 5 ans, eh bien, le gérant va choisir des émetteurs, va faire tourner son portefeuille, etc. Mais en pratique, vous allez avoir une duration qui va systématiquement rester la même,
aux
petites oscillations près. Mais vous avez un produit dont la nature au risque obligataire est de nature totalement différente. Duration décroissante sur votre obligation traditionnelle, duration constante sur votre...
Donc en clair, ils ne parlent pas de la même chose.
On ne parle pas de la même chose.
En tout cas en termes de risque.
Maintenant, si on regarde, le fonds obligataire daté, ça n'a pas officiellement une valeur de remboursement comme une obligation, mais techniquement...
C'est du portage,
mais techniquement, c'est un produit qui va ressembler à l'obligation traditionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un produit sur lequel vous allez avoir une duration décroissante. En revanche, lorsque vous dites, alors un tracker, vous savez, on a fait un jour une chronique grâce à un auditeur qui nous avait dit trouver un tracker, c'est bien parce que tout le monde a envie des trackers. Allez, le tracker, c'est génial, ça coûte pas cher, faut en prendre, etc. Quand il s'agit d'en trouver un, donc un indice obligataire, si on veut comparer, il va falloir qu'on aille chercher un indice obligataire corporate, ou c'est-à-dire des obligations d'entreprise de bonne qualité, ou high yield, si on veut du high yield. Mais toujours est-il que lorsque je vais prendre un tracker sur un indice obligataire, je vais avoir un produit qui va avoir une duration, qui va être une duration constante. Donc, techniquement, j'ai quand même deux produits qui portent des risques et qui sont très différents.
Donc, faut le savoir quand on choisit son produit.
Donc je n'ai pas d'opinion sur l'un par rapport à l'autre. Je dis simplement, effectivement, il faut le savoir.
Question de Monique. Elle a un très vieux PEP et elle a plus de 80 ans. Et il se demande si son très vieux PEP a un intérêt fiscal.
Alors, il y en a plus des masses. Alors, le PEP a, sur le fond, alors le PEP, il est plus commercialisé depuis 2003. Donc, quand elle nous dit
un très vieux
PEP, effectivement, c'est un sujet qui est important. Le PEP a un avantage fiscal colossal qu'il partage avec un autre placement qui est le plan d'épargne en action, c'est la possibilité de sortir en rente viagère défiscalisée. Ce que n'offrent absolument pas les autres placements, que ce soit l'assurance vie ou que ce soit l'épargne retraite. Donc ça, c'est un énorme avantage. J'imagine en revanche que si elle a un vieux PEP, c'est désormais un PEP assurance et que sa question, elle n'est pas au niveau de la sortie en rente viagère défiscalisée, parce que prendre une rente viagère quand on a plus de 80 balais, entre nous, je ne suis pas sûr que ce soit un bon conseil patrimonial. Son sujet, il doit être successoral. Et elle doit se dire, est-ce que je dois pouvoir verser sur mon vieux PEP alors que j'ai plus de 80 ans et que la règle, c'est 30 500 lorsqu'on a plus de 70 ans sur un contrat d'assurance vie. Alors Monique, moi, je vais vous retourner la question. La question, c'est que veut dire très vieux? Parce que si vous avez un PEP assurantiel qui n'a pas été souscrit, donc il a été par définition souscrit avant 2003, mais s'il a été souscrit avant le 20 novembre 1991, donc là, ça nous ramène 32 ans en arrière, 31 ans en arrière, eh bien, il n'est pas soumis à la règle des 30 500, il est soumis à la règle des 152 500 de capital aux bénéficiaires, donc elle peut effectivement avoir intérêt à y verser. Je rappelle juste un petit détail, on le disait il y a quelques instants, le PEA traditionnel est plafonné à 150 000 euros, le PEP, lui, était plafonné à 92 000 euros, et là encore, on ne parle pas en encours, on parle en montant des versements.
En montant de versement. Allez, il reste une minute, un peu moins, pour répondre à Fabrice. 48 ans, il a un PEL de 2013 avec 13 000 euros. Il aimerait y placer 200 euros par mois jusqu'à sa retraite. Quel est le meilleur placement? Il garde son PEL ou il prend un multisupport en assurance vie?
Juste, on va là encore, je vais réfléchir d'un point de vue patrimonial. 200 euros par mois pendant... je vais être cool avec lui, je vais considérer que la réforme sur les retraites ne va pas passer, donc je vais considérer...
Oh, cette prise de position politique.
J'avais considéré qu'il va avoir 14 ans à verser. 14 ans à verser à 200 euros par mois, ça doit faire aux alentours de 33 000 euros et des poussières de versement. Si vous avez 2,5% de taux d'intérêt, ce qui est le taux de son PEL, vous arrivez à 40 000 euros de capital. Si vous avez le double, c'est-à-dire la performance se compter sur les marchés actions, vous avez 48 000 et des poussières euros de capital. Alors, le PEL, il va pouvoir le garder éventuellement pendant un certain temps, mais je dis tout de suite qu'il ne va pas tenir jusqu'à l'âge de la retraite. Bon. Pourquoi? Parce qu'au bout de 15 ans, son PEL sera obligatoirement fermé et remplacé en compte sur livret.
Donc une assurance vie avec des UC?
Oui, ou bien un PEA. Ouais. Et c'est marrant votre réflexe, parce qu'on a tendance à vouloir, sur ce genre de situation, à trouver des produits tout en un. Et peut-être que la solution, c'est d'avoir un produit sans risque d'un côté et du PEA de l'autre. Le ratio que je lui donnerai, c'est deux tiers sans risque, entre guillemets, et un tiers PEA.
Jean-François Fillatre et Marché Gagnant répondaient à toutes vos questions. Merci Jean-François. Dans un instant, Sandra Gandoin, 90 minutes business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire.
On va parler évidemment des États membres de l'Union européenne qui se sont accordés pour quasiment doubler la part du renouvelable dans le mix énergétique d'ici 2030 en Europe. On va en parler avec Thomas Asportas, bien sûr. On parlera décarbonation par la même occasion de l'industrie et de la sidérurgie, en particulier avec notre invitée Faustine de la Salle. Et puis, dans notre débat à 12h45, les concessionnaires des autoroutes ont été auditionnés au Sénat. Est-ce qu'ils ont fait trop de profits? À quoi va ressembler l'autoroute de demain? On en parlera avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et Jean-Baptiste Huette.
C'est à suivre dans un instant. Nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Le CAC gagne 1,12%, 7267 points. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.